Bonjour et bienvenue à notre message, notre première partie de notre série du mois de décembre intitulée « La table de Noël ». Nous sommes à moins de 2 semaines de Noël et c'est notre thème de décembre, la table de Noël, la table de c'est ce que Noël représente, sa venue, sa bénédiction, ce que Jésus nous offre et nous invite à sa table et on va le développer ensemble. Mais c'est aussi la table de Noël en décembre à Nouvelle Vie. C'est aussi notre passion et notre mandat comme chrétien, comme Église, de partager notre table de Noël. Alors, permettez-moi pendant un instant, même si je sais qu'il y a des gens qui nous suivent partout à travers le Québec et la francophonie, nous vous saluons, mais permettez-moi comme un pasteur de parler au peuple de l'Église Nouvelle Vie, à tout le monde, de tous les chrétiens de Nouvelle Vie, sur chacun de nos sites. Je m'adresse à vous un moment ce matin, cœur à cœur, pour vous demander de mettre le comble à votre générosité. Alors, je parle aux chrétiens de Nouvelle Vie, à Longueuil, chrétiens de Nouvelle Vie hispanophone. Nouva Vida, je sais que plusieurs d'entre vous suivez les dimanches matins en ligne, Nouvelle Vie, La Prairie, Châteauguay, Drummondville, Charlebois, Sept-Îles. Je vous appelle, on est au mois de décembre et le support à l'organisme Action Nouvelle Vie, la distribution de 2000 paniers sur les territoires autochtones, en Haïti, partout, CHSLD, Maisons pour femmes qui sont en difficulté, ainsi que auprès des sans-abri de Montréal. On va distribuer de façon massive et on a besoin de vous. Alors, merci. Alors qu'il y a un appel à la générosité partout dans notre province, même dans le monde séculier, bien sûr, je vous appelle à vous, comme à chaque année, on a été secoué par les demandes de paniers de Noël cette année. Vous avez vu les manchettes cette semaine, l'actualité qui parle du coût des aliments qui monte de façon, qui grimpe de façon astronomique et ça paraît tout de suite avec les familles qui ont de la difficulté à se nourrir. Alors, chacun d'entre nous, à sa mesure, sur tous nos sites, je vous invite même aujourd'hui, là, tout de suite après la prédication, le moment de louange, ce moment ensemble aujourd'hui, si vous pouvez simplement aller faire ce don de générosité, mettre le comble à votre amour alors que nous allons ensemble partager notre table. Moi, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, un de mes plus beaux souvenirs de Noël comme pasteur de Nouvelle Vie. C'est il y a quelques années, un 23 décembre, après qu'on ait fait tous nos efforts, toutes nos distributions et tous nos événements communautaires et humanitaires de Noël. J'étais le 23 décembre en train de faire mes derniers achats dans un centre commercial lorsque j'arrivais face à face avec une maman avec ses 3 enfants, des enfants qui avaient l'air assez, pas agités, mais disons énergiques. Et elle, tant bien que mal, j'avais compassion d'elle, elle gérait ses trois enfants qui m'ont, et un petit garçon qui m'a souri en passant. Et moi, c'est toujours quelque chose qui peut me rendre un peu perplexe ou mal à l'aise parce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent à Nouvelle Vie. Alors, partout où je vais, dans notre ville, ça arrive souvent que des gens me reconnaissent et tout ça, mais je ne sais pas toujours si je dois répondre, sourire, pas sourire, qu'est-ce qui se passe. Mais le petit garçon m'a souri, alors je lui ai souri. Et là, alors que je l'ai croisé, il a continué son chemin quelque part et je l'ai entendu dire à sa mère, « Regarde, maman, c'est le monsieur de l'église qui aide tout le monde. » Et là, la dame m'a dit, on était là cette semaine, merci, on a reçu, elle avait traversé une période particulière. Et moi, ça, je veux vous l'offrir aujourd'hui à tous les gens de Nouvelle Vie. Nous voulons être les hommes et les femmes qui expriment son cœur et qui aident tout le monde, partager notre table à Noël. Lorsqu'on parle de la table, la table de Noël, dans la Bible, la table représente beaucoup de choses. La table de Dieu représente son amour, sa provision, sa grâce, son salut, sa fidélité, sa protection, tout ce qu'il offre, la relation avec lui, l'intimité avec lui, une relation personnelle. Viens, je t'invite à ma table, une communion avec Dieu. Mais ça représente aussi ses plans, notre mission, d'établir son royaume sur la terre. Dans le psaume 78-19, on a la table dans un contexte très, très important. Ça dit, ils doutèrent dans leur cœur et parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Le psaume 78 révèle la blessure et la colère du cœur de Dieu lorsque son peuple sombre imperceptiblement, pas à pas, dans l'incrédulité, dans des justifications, des rationalisations pour expliquer que c'est pas possible ici au Québec, c'est un désert et Dieu peut pas pourvoir, Dieu peut pas bâtir, Dieu peut pas mettre une table dans le désert. Et c'est particulier parce que Dieu dit, ils parlèrent contre moi. Et si vous lisez le psaume en entier, ils ne blasphémaient pas contre Dieu, ils ne disaient pas des choses contre Dieu directement, mais Mais lorsqu'ils, par leur incrédulité, par leur refus de se mettre au diapason de son cœur, lorsqu'ils se disaient « Ah, est-ce que Dieu pourrait mettre une table dans le désert? » Dieu dit « Vous attaquez ma nature, vous attaquez le Dieu que je suis, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui établit une table dans le désert. » Alors la question est, est-ce que Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et la réponse, c'est oui. Oui, il le fait, c'est ce que nous vivons en nouvelle vie depuis 28 ans, dans le désert de la province, spirituellement, de la province de Québec. Dieu bâtit une table, Dieu bâtit son église, Dieu multiplie son œuvre, des milliers viennent à lui, à chaque année des baptêmes, à chaque année une croissance, à chaque année une implantation. Nous sommes les instruments par lesquels Dieu bâtit une table dans le désert. Et la table de Dieu, la table de Noël, mais c'est une table toute l'année, la table de Dieu dans la Bible, ce n'est pas seulement une table de communion entre nous et Dieu, bucolique, le moment, une image de communion entre nous et lui, simplement on est assis à sa table. C'est aussi une table très réaliste, une table qui est très lucide, parce que c'est une table non seulement de communion, mais Dieu dit « ma table est une table même dans tes combats ». Le psaume 23, « tu me permets de trouver le repos ». Tu restaures mon âme, car tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ça va être le prochain message le lendemain de Noël. Manquez pas ça, parce qu'on va regarder ensemble comment Dieu, en fin d'année, pour la nouvelle année, dresse une table devant nos ennemis. Mais quels que soient les ennemis devant toi, en cette fin d'année 2021, en ce début d'année 2022 qui approche, Dieu t'appelle à la table, à sa table où il peut restaurer ton âme, trouver un repos à ton âme, quels que soient les ennemis qui sont en face de toi. Peut-être que l'année de 2021 était difficile, t'as des ennemis qui sont devant toi de deuil, de défaite, de déchirement, de découragement, de doute, quel que soit l'ennemi qui est devant toi, Dieu veut te dresser, veut dresser une table devant toi pour te donner du repos à ton âme. C'est le message de la table de Noël. Notre texte de Noël aujourd'hui n'est pas dans l'évangile de Luc ou de Matthieu, nos textes habituels, les textes classiques de la naissance de Jésus. C'est pas des textes traditionnels avec les bergers, les mages, Marie-Joseph, l'étoile et l'étable. Mais dans le récit d'un homme qui s'appelle Méphibosheth, dans l'Ancien Testament, l'homme qui avait tout perdu, qui se retrouve assis à la table du roi, il y a toute la beauté et l'espoir du message de la naissance de Jésus à Noël, d'une manière qui, je pense, surprenamment va vous rejoindre. Pour bien comprendre Méphibosheth, on va l'appeler Méphibosheth pendant le message, c'est Méphibosheth. Pour bien comprendre Méphibosheth, vous devez connaître trois acteurs, trois noms, trois personnages qui intersectent dans sa vie, qui ont une grande influence sur lui. Puis on les rencontre, ces trois personnages, dans notre texte aujourd'hui. C'est un message en deux parties que je vais continuer le 26 décembre. Mais nous avons dans 2 Samuel, chapitre 9, et les versets 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Vous avez trois noms ici que j'ai expliqués dans un instant. Leur relation avec Méphibosheth, David, Saül et Jonathan. Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Oui, je le suis, ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui, que je manifeste, que je lui offre la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, à Lodebar. » C'est un endroit que je vais vous expliquer. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, à Lodebar. Et Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Me voici, ton serviteur. » Et là, David lui dit, le roi lui dit, « Ne crains pas, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth, invité à la table du roi. C'est le message de Noël. Trois personnages qui ont profondément impacté la vie de Méphibosheth: Saül, David et Jonathan. Saül était le premier roi d'Israël, un roi narcissique, égocentrique, insécure, impulsif, jaloux, menteur, vantard. Il a complètement rejeté Dieu et il entraîne une nation avec lui dans des conflits, dans des divisions, la colère et le chaos. Et quelqu'un dira, plus ça change, plus c'est pareil. Jonathan, lui, est son fils, le père de Mephibosheth, et David a été le meilleur ami de Jonathan, mais il est celui qui doit succéder à Saül comme roi. La table de Noël, Mephibosheth, Saul, David et Jonathan. Et Dieu a dit à Saül, je vous donne le contexte, « Parce que tu as méprisé toutes les lois de Dieu et tu as abusé le peuple, le royaume te sera enlevé, va être déchiré de toi. » Et qui va le remplacer? À qui sera-t-il donné? Qui va lui succéder? À un jeune oublié, négligé, méprisé par son père et par ses frères. David, un jeune berger fidèle, qui sert Dieu fidèlement. Et Dieu dit, c'est lui qui va succéder. Si tu te sens cette fin d'année, négligé, oublié, que personne ne voit ce que tu as fait, tu as été victime d'une injustice, on ne te reconnaît pas. Prends courage aujourd'hui. Accroche-toi aujourd'hui. Dieu a un plan pour toi. Continue à le servir dans le lieu secret. À lui être fidèle lorsque personne ne voit. Dieu a un plan pour toi. Il te voit. Tu es important. Il veut se servir de toi. David a grandi. Il s'est développé, s'est fortifié. Et il y a un moment fatidique dans l'histoire d'Israël où il a abattu un géant, Goliath. Et lorsqu'il l'a fait, à partir de ce moment-là, il y a une reconnaissance de la nation qui est en train de voir l'appel de Dieu qui était sur David. Jonathan aussi va voir l'appel de Dieu sur sa vie. Et alors que David a battu le géant, à partir de ce jour, le roi Saül devient fou de rage et de jalousie. Il va le pourchasser pour l'éliminer pendant 10 ans. Il ne réussira pas, mais pendant 10 ans, il va le pourchasser pour lui enlever la vie. Il est fou de rage contre lui. Et David vit pendant cette décennie dans des cavernes, dans des caves. Mais c'est lorsqu'il a, dans les ténèbres, dans l'ombre, mais c'est alors qu'il était dans ses caves, dans ses cavernes, qu'il a écrit la majorité de ses psaumes à la gloire de Dieu que nous chantons encore aujourd'hui, des millénaires plus tard. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Certaines des œuvres les plus belles et précieuses que Dieu veut développer en toi vont être créées dans tes jours les plus sombres. Dans tes jours les plus sombres de ta vie, même en 2021. Alors, tu as besoin avec moi, tu peux dire, Seigneur, tu peux transformer la trahison et les tempêtes en témoignages. En cette fin d'année, je t'appelle à dire avec moi, je vais changer toutes ces attaques en adoration devant Dieu. Et faire ma déclaration de foi qu'alors que je suis dans la caverne, Dieu est en train de construire ma destinée dans la caverne. Jonathan, le fils de Saül, qui traditionnellement serait logiquement devenu le successeur de Saül, son père. Mais il devient le meilleur ami de David. Il voit la main de Dieu sur David. Il est prêt à abdiquer son rôle, son poste pour le bien de la nation. Il devient son défenseur, même contre son père fou, son allié pour succéder à son père enragé et hors de contrôle. Et éventuellement, à la fin de sa vie, Saül va mourir tragiquement à la guerre sur une colline de folie, dans un bain de sang où il entraîne son fils Jonathan qui perd la vie également, laissant Mephibosheth orphelin à l'âge de 5 ans. Vous dites pas ça, Claude, là on est loin de Noël. On est loin de la table de Noël avec Mephibosheth. Qu'est-ce que Mephibosheth peut bien avoir avec moi en 2021, à deuxième année de pandémie, à quelques jours de Noël? Je voudrais vous proposer que nous sommes tous Mephibosheth. En fait, je vous le dis bien simplement, humblement, toute transparence, je suis Mephibosheth. Je suis Mephibosheth. Nous sommes tous Mephibosheth d'une façon ou d'une autre, derrière les masques, dans la chambre de nos cœurs, plus que vous pourriez l'imaginer. Le nom de Mephibosheth est intéressant. Son nom en hébreu est un nom composé de Pa'a, qui veut dire répandre et reproduire, et Duma, qui veut dire honte et souffrance. Le nom Mephibosheth signifiait littéralement « celui qui répand et reproduit la honte et la souffrance qu'il a vécue ». De l'âge de 5 ans, au moment où nous le retrouvons dans le texte qu'on a lu comme adulte, il vit à Lodebar. Et Lodebar veut littéralement dire le lieu où il n'y a rien. le pas de pâturage, le lieu du rien, le milieu de nulle part, la ville qui ne vaut rien, qui était située dans la vallée d'Accor, la vallée des larmes. Méphibosheth, c'est l'homme qui répand la honte et la douleur et qui habite, qui demeure dans le lieu du rien, dans le lieu où il n'y a rien, dans la vallée des larmes. Et dans Osée, chapitre 2, verset 16, il y a cette promesse extraordinaire pour toi. C'est la table du Seigneur. Et la table de Noël où Dieu dit littéralement, voici, à toi qui es dans la vallée des larmes, la vallée d'Accor, la vallée de Lodebar, à toi qui es dans la vallée des larmes, j'ouvrirai devant toi une porte d'espoir qui va remplacer la vallée des larmes. C'est ça le message de Noël. C'est Méphibosheth de nulle part assis à la table du roi. Alors, je suis Méphibosheth. Tu es Méphibosheth. Et je suis Méphibosheth parce que comme lui, j'ai un passé qui est lourd à porter. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un amour qui est divin pour me guérir. On a lu dans le texte que le roi a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Le roi David est dans son règne et il appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la maison de Saül? La maison de Saül, c'est une maison peut-être que tu as connue, de promesses brisées, de potentiel gaspillé, de colère, de trahison, de haine et de peur. Et au verset 5, lorsque vous lisez, et le roi le fit, l'envoya chercher, croyez-moi, lorsque le bruit est arrivé à Lodebar, le roi envoie chercher une garnison qui s'en va chercher Méphibosheth. C'est un moment de terreur glaciale dans le cœur de Méphi. Il vivait avec l'obsession et la terreur constante, comme s'il vivait sur du temps emprunté. Un jour, mon passé va me rattraper. Un jour, mon passé va me rattraper. Son passé, le passé de son grand-père qui avait tourmenté, qui avait pourchassé le roi David. Le roi est maintenant en pouvoir. Il a toute autorité. Un jour, le passé va venir me chercher. Il y a quelques années, il y a une femme que mon épouse Chantal et moi, elle et sa famille, on les aime tellement. Elle vivait une période atroce de souffrance. Elle a énormément de souffrance dans son passé. Puis j'ai essayé de l'encourager pour l'avenir. Puis elle m'a dit, tu sais, Claude, c'est pas mon avenir qui me fait peur. C'est pas mon avenir qui me fait peur, c'est mon passé qui me tue. Et c'est comme ça que Méphibosheth se sentait, parce que c'était la norme à l'époque et à travers les âges pour le nouveau roi d'éliminer toute la descendance de l'ennemi qui l'avait précédé. Et ça, on voit ça à travers l'histoire. Vous savez, dans des œuvres de fiction, des films comme le Parrain ou la série Games of Thrones, ou à la réalité moderne, dans la vraie vie de Saddam Hussein qui faisait éliminer les fils et les petits-fils de ceux qui étaient ses anciens ennemis ou présents ennemis. Même aux chefs d'État modernes qui sont prêts à tout pour détruire, dénigrer, faire disparaître tout ce que son prédécesseur a accompli, tuer sa réputation, c'est une réalité historique perpétuelle de l'expérience humaine. Et Méphibosheth, lorsqu'on l'envoie chercher, pense que c'est la fin de tout. Est-ce que ton passé à toi est lourd à porter? Est-ce que parfois tu sens que tu te combats et qu'un jour mon passé va venir me chercher, mon passé va venir me rattraper? Et lorsque arrive le moment, il y a un roi qui l'appelle Méphibosheth, ça se jette face contre terre contre lui. Il faut que vous compreniez la scène. Lorsqu'on le traîne et on l'amène au palais, faut imaginer, moi, j'imagine une scène où il rentre dans le palais et il y a une affiche qui dit la potence, le bourreau, la mise à mort. Puis il y a une affiche loin de ce côté-là qui dit la table du roi. Et lorsque Méphibosheth vient et se jette aux pieds, il pense qu'il va être amené. Et peut-être même que les bourreaux pensent, voici, c'est le dernier des descendants. On va éliminer la menace alors qu'ils viennent pour l'emporter. Le roi David dit non, amène-le à la table du roi. Ça, c'est Noël. Le roi David dit, Méphibosheth, je veux te faire du bien. Que je lui fasse du bien. Que je lui manifeste la bonté de Dieu. Bonté est même un mot très faible. Lorsqu'on regarde la traduction en français de bonté de l'hébreu, c'est un des mots les plus importants de l'Ancien Testament en hébreu. C'est le mot chesed. Et le mot chesed, c'est pas seulement un geste sporadique, éphémère de bonté ponctuelle. Non, c'est l'amour infini, l'amour inconditionnel, une alliance d'amour et de bonté. Le roi a dit, moi, en alliance avec toi, je veux te combler avec un amour fidèle. T'as besoin d'aide divine, t'as besoin d'amour, ton passé est lourd à porter. Le message de Noël, de la table de Noël, à nous tous, les Méphibosheths au passé qui nous rattrapent, Dieu dit, viens à moi. Viens à ma table, je t'offre un amour inconditionnel, mon aide, mon alliance d'amour qui guérit les pires passés. Je veux te faire chesed. Je veux te faire du bien. C'est un amour, alliance, à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler une relation d'acquisition ou de consommation. Une relation, c'est une relation d'alliance, d'aide et d'amour. Nous vivons dans un monde de relations de sans alliance, de relations, un monde relationnel de consommation, où le mode consommateur envahit chaque aspect des relations humaines. C'est un mode de relation moderne qui est dans la pensée de « si tu me donnes satisfaction », comme un client, « si tu me donnes satisfaction, je reste, sinon je quitte, je te quitte, je m'en vais ailleurs ». Dans une relation de consommation d'acquisition, tu restes si tes besoins sont rencontrés et tu es prêt à jeter, à abandonner la relation si tu penses trouver mieux ailleurs. Dans une relation d'alliance, tu es prêt à te sacrifier pour amener guérison à l'autre, pour rencontrer les besoins de l'autre. Et c'est ça le message de Noël. C'est Dieu qui prend forme humaine. C'est le message de Dieu qui dit « Venez à ma table », du roi qui vient s'identifier à toute l'expérience humaine de tous les Mephibosheths du monde. Il dit « Viens à ma table ». Le roi Jésus se sacrifie pour nous manifester sa bonté, guérir nos passés et rencontrer notre besoin profond d'aide et d'alliance, d'amour inconditionnel. Dans les dernières 30 à 50 années, dans les milieux, il y a des milliers d'articles dans les milieux académiques, de livres, d'études qui sont publiées détaillant comment cette mentalité de consommateur relationnel, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi, façonne, caractérise et définit de plus en plus les relations personnelles, les relations interpersonnelles, les relations familiales, les relations avec notre travail, avec notre carrière, avec nos études, et les relations, et moi, comme pasteur, je vous dirais, ça caractérise aussi beaucoup de chrétiens, leurs relations avec Dieu et avec l'Église. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Qu'est-ce que je peux prendre? Ça n'a pas d'importance comment quelqu'un ou l'Église ou Dieu a été bon vers moi dans le passé. En ce moment-là, j'ai plus besoin. Je passe à autre chose. Les relations sont jetables. Ça produit une société fragmentée, une Église, une société fragmentée, divisée, méfiante, égocentrique, déloyale, infidèle et désengagée. Pourquoi? Parce que les relations sont jetables. Nous vivons dans un monde de relations jetables, d'amour et de liens, d'engagement variable et conditionnel, et toujours à court terme. En 38 ans de pastorat, mon expérience confirme ce que les psychologues, sociologues, anthropologues modernes, ainsi que intervenants, travailleurs sociaux, psychothérapeutes, qui constatent sur le terrain, avec une inquiétude pour l'avenir, il n'y a peut-être jamais eu dans notre ère moderne une société où les gens sont si fermés et réfractaires à la pensée, à la notion d'engagement, de fidélité, d'alliance, si hostiles et étrangers à la notion d'alliance, d'engagement, de loyauté et de fidélité dans l'amour. Je suis Mephibosheth parce que j'ai un passé lourd et j'ai besoin d'aide et d'amour, d'une alliance de grâce et d'amour dans ma vie, de quelque chose de solide, de quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. J'aimerais vous donner une citation du Dr. Mark Edmondson. Il est professeur à l'Université de la Virginie. Il a écrit une dizaine d'ouvrages. Il est une sommité en sociologie et anthropologie moderne. Certains de ses livres sont utilisés comme cursus dans une trentaine d'universités à travers le monde. Des livres comme « Le soi et l'âme », les livres comme « Le cœur des humanités », « Pourquoi lire, pourquoi écrire, pourquoi enseigner », une défense des idéaux, les sources de moralité de l'Antiquité à aujourd'hui. Il a même écrit un livre que je dédie à Pasteur Marc Lecomte et toute la gang de fans de football, et en particulier Pasteur Marc, fan fini des Steelers de Pittsburgh. Il a même écrit un livre intitulé « Pourquoi le football est important ?» où il dit, et le sous-titre, « Ce que la game nous apprend sur notre société moderne ». Il a publié des centaines d'articles dans des revues scientifiques, et la prestigieuse revue The American Scholar dit de lui « Une voix et un regard unique, lucide et percutant sur l'éthos des réalités et des mentalités dominantes de notre société au 21e siècle ». Et un de ses plus célèbres articles que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui est cité dans des universités mondialement, s'intitulait « Dwelling in Possibilities », où il élabore la thèse que les milléniaux en particulier sont des junkies des possibilités. Ils sont accros au choix et au non-engagement. Ils sont allergiques, intensément allergiques, aux vérités ou valeurs qui leur sont proposées, qui sont sous une forme absolue, ou immuable avec un engagement à long terme. Je vous cite Edmondson, Dr. Edmondson. Il dit, « Autant ils disent vouloir accomplir tant de choses, leur plus profonde recherche est de garder toutes leurs options ouvertes, de ne jamais, au grand jamais, fermer quelques possibilités que ce soit, qui se traduit par une aversion systémique à s'engager envers qui que ce soit, quoi que ce soit, avec une volonté de permanence. » Dans sa thèse, il développe sur chapitre après chapitre cette réalité. Comment dans leurs études, dans leurs relations, dans leurs relations amoureuses, dans leurs valeurs, même dans leur spiritualité, dans leurs emplois, dans leur travail, il y a toute une génération qui est absolument étrangère à la notion d'alliance, à la notion de fidélité, d'amour fidèle, d'engagement fidèle pour la vie. Et Mephibosheth portait, lui, le poids d'un passé dans une maison, une nation aux loyautés jetables. Où celui qui dominait n'était engagé envers personne d'autre que lui-même. Mais le roi lui dit, Mephibosheth, puis il te dit ça à toi et à moi, je te cherche pour te faire du bien, pour t'inviter à ma table, pour m'engager envers toi dans une alliance d'amour, guérir ton passé en te faisant découvrir ma bonté, mon alliance, mon chesed, mon alliance d'amour qui peut non seulement te relever, mais te restaurer dans chaque aspect de ta vie. C'est ça Noël. Au-delà de toutes les tables alimentaires de party, est-ce qu'il va y avoir 10 personnes ou 20 personnes et tout le reste qui va avec la table de Noël, le roi dit, viens à ma table. Viens à ma table. Je n'oublierai jamais mon alliance et je vais te rendre capable de diriger tes pas par mon amour dans des chemins de paix. Ça, c'est un verset de Noël dans l'évangile de Luc. C'est Marie elle-même. Moi, je suis Mephibosheth. Parce que j'ai besoin d'aide et besoin d'amour. Mais Dieu m'offre en Jésus son alliance d'amour et de bonté. Et Marie l'a écrit, c'était un chant, on a appelé ça le Magnificat. C'est Marie elle-même qui dira de Jésus, « Béni soit le Seigneur, Luc chapitre 1, « Béni soit le Seigneur qui nous a suscité un puissant sauveur, qui nous délivre de tous les ennemis de notre passé. » C'est la version Le Message. « Il n'oublie jamais son alliance. » Et son serment d'amour et de fidélité afin de nous permettre de diriger nos pas à nouveau vers des chemins de paix. Quel que soit ce qui était arrivé en 2021, la table de Noël, c'est Dieu qui déploie toute la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur, l'intimité, le personnel, la proximité de tout son amour et de sa fidélité en Jésus pour toi. La table de Noël n'est pas seulement à Noël. Ses bontés se renouvellent, ses chesed, ses bontés, son alliance se renouvelle à chaque jour. C'est pour ça qu'on entre dans 2022, quel que soit ce qui arrive autour de nous. C'est pour ça qu'on traverse des pandémies avec une paix et une confiance dans nos cœurs. Parce qu'à chaque jour, il y a sa bonté, il y a son chesed, il y a la table de Dieu qui m'offre la bonté. La table de Noël, de sa bonté n'est pas seulement pour être guéri nous-mêmes, mais pour grandir et dans sa bonté. Et pour le glorifier par l'esprit de Chesed en nous. Récemment, il y a un ami pasteur de France qui est en visite juste dans les derniers jours. Et puis, dimanche dernier, puis on s'est salué. Et puis, il a entendu les annonces pour les paniers de Noël et les annonces pour tout le reste. Et il m'a dit, « Ah! » Il dit, « Vous faites encore ça? Ça fait combien d'années que vous faites ça? » Ça fait 28 ans que nous faisons ça. Et je lui ai répondu gentiment. Sa question n'était pas méchante. Mais oui, on fait encore ça. Oui, nous allons continuer à soutenir. Cette année, plus que jamais, ensemble, on ne peut pas le faire sans vous. L'organisme Action Nouvelle Vie est distribué des milliers de paniers, des milliers de jouets. Oui, nous allons continuer à être auprès des sans-abri le jour de Noël, le lendemain, la veille, le jour de Noël, avec des couvertures, avec des vêtements, avec des repas chauds, avec des cadeaux pour eux. Oui, nous allons continuer chez Cède parce que nous représentons ce cœur de Dieu, cette alliance de bonté qui dit viens à la table, qui ne lâche pas. Oui, nous allons continuer à être, nous le sommes, en Haïti, à bâtir, à rebâtir, à aider, à sauver, à bâtir école, dispensaire. Oui, nous allons continuer dans le chesed. Chesed ensemble dans sa bonté. Jamais seulement être assis à la table pour la recevoir, mais pour rejoindre d'autres Mephibosheth. Oui, on va continuer avec des concerts de Noël, avec 4 représentations, plus des dizaines de milliers qui vont suivre en ligne parce que nous voulons partager. Nous voulons pas seulement recevoir sa bonté, être à la table entre nous, mais partager la table du roi. Je parle à toi personnellement, quelqu'un a besoin de l'entendre. Si comme Mephibosheth, tu as été réduit par la honte de tes échecs, manquement et infidélité. Si tu es celui ou celle qui a habité trop longtemps à Lodebar, le lieu où tout semble réduit à rien, où tout a été bousillé, dans la vallée d'accord, dans la vallée des larmes, en 2021, viens, reviens maintenant à Jésus, à la table. Il t'appelle à sa table, il veut te faire du bien. Son alliance de bon temps vers toi n'a jamais varié, n'a jamais changé. Il veut faire de toi un homme, une femme qui reprend confiance et qui redevient lui-même digne de confiance. Je suis Méphibosheth. Je suis Méphibosheth parce que, comme lui, j'ai un passé lourd. J'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'amour divin. Et Dieu m'appelle à sa table et m'offre sa bonté. Je suis Méphibosheth parce que j'ai perdu confiance en moi et en d'autres. J'ai besoin d'assurance, d'affirmation. J'ai besoin d'apaisement. Nous avons lu que Méphibosheth était perclus des pieds. Le mot en hébreu parle d'être boiteux, d'être blessé de façon permanente, handicapé, paralysé des pieds. Est-ce que vous savez comment c'est arrivé? La Bible nous le raconte. Dans 2 Samuel 4:4, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, lorsqu'il était âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva de Jézreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, son père. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, elle l'a échappé. Il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. 2 Samuel 4, je vous invite à lire à la maison le récit historique de la mort tragique de Saül et de son fils Jonathan, le père de Méphibosheth, décrit les événements d'une façon, avec un éthos, d'une façon qui illustre bien tout le côté dramatique, bouleversant des événements. On lit dans 2 Samuel que leurs mains restèrent sans force à l'annonce de la mort de Saül et de Jonathan. Leurs mains restèrent sans force et la nation entière était dans l'épouvante. Nous ne savons rien de la mère de Méphibosheth. Ce jour-là, à l'âge de 5 ans, il a perdu son père. Il a été arraché du palais et en panique, terrorisé, sa nourrice qui courait pour se sauver l'a échappé. Il a été échappé et elle a échappé et rendu boiteux pour le reste de sa vie dans sa chute. Je suis Méphibosheth et peut-être que tu l'es aussi parce que comme lui, j'ai été échappé. On m'a laissé tomber. On m'a échappé. J'ai été déçu. J'ai besoin d'assurance, d'apaisement divin, car comme lui, ceux en qui j'avais confiance, qui devaient prendre soin de moi à certains moments de ma vie, m'ont laissé tomber, m'ont échappé. La nourrice était maintenant le seul visage aimant de la vie de Méphibosheth, mais elle l'a échappé. Et il en est sorti marqué boiteux. C'est une expression, vous connaissez, c'est une expression québécoise commune. On l'a échappé. Ah, je l'ai échappé celle-là. Celle-là, je l'ai échappé. Aujourd'hui, alors que je me préparais, j'arrivais tôt ce matin à la radio, il y avait le résultat, il y avait le verdict d'un procès d'une petite enfant qui a été martyrisée jusqu'à la mort dans la ville de Granby, dans notre province de Québec. Et l'animateur disait, elle n'a pas été protégée. Le système l'a échappé. Et nous pouvons, comme Méphibosheth, nous pouvons perdre confiance et être boiteux et souffrir boiteux moralement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement et souffrir profondément d'avoir été échappé. Avoir été échappé par nos parents, avoir été échappé, avoir été laissé tomber par un conjoint, dans un mariage qui s'est terminé en divorce, qui a déchiré, par quelqu'un qui a trahi tous les engagements qu'il avait pris, par un divorce, par un abandon, échappé. Échapper comme adulte, échapper par nos parents, échapper par nos enfants qui laissent tomber, qui déchirent. On peut être échappé par un ami, par un représentant de Dieu en autorité spirituelle en qui on avait confiance. La province de Québec en entier est blessée spirituellement, émotionnellement, a perdu confiance. Génération après génération qui ont été échappés, qui ont été abandonnés par des représentants, par des mon père, par des représentants religieux qui devaient les protéger, en qui ils avaient droit d'avoir confiance. As-tu besoin d'une assurance? As-tu besoin d'un ancrage? As-tu besoin d'être apaisé? As-tu perdu confiance? As-tu besoin qu'il y ait quelqu'un qui ne t'échappe, de l'assurance qu'il y a quelqu'un qui ne t'échappera jamais, ne te quittera jamais, ne te laissera jamais tomber? Je suis Méphibosheth. Et comme lui, J'ai été laissé tomber. J'ai été échappé à différents moments de ma vie et j'ai besoin de cette assurance divine. Comme Marie a dit de Jésus, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a rassasié, ça c'est le message de Noël. Il a rassasié de bien les affamés. Il a secouru son peuple. Il n'oublie jamais sa miséricorde. Elle dure à toujours. Marie aurait pu dire, il ne t'échappera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Je veux parler un moment à ceux qui ont souffert d'avoir été échappés, mais aussi à ceux qui connaissent, qui sont déchirés, à toi qui es déchiré, abattu, démoli, parce que c'est toi qui as échappé, c'est toi qui as laissé tomber, c'est toi qui as manqué, c'est toi qui as déçu. Vous savez, ça peut être une douleur insoutenable de ressentir que j'ai laissé tomber, j'ai manqué à, j'aurais dû, je n'ai pas, j'ai chuté, je l'ai échappé moi, comme Marie. Je l'ai échappé, tu regardes cette, je l'ai échappé comme époux, j'ai échappé, j'ai laissé tomber mes vœux, mes engagements, je l'ai échappé comme père, comme mère. Je l'ai échappé, j'ai échappé mon mariage, mes vœux. Mes études, mes rêves, ma carrière, mon futur, mon avenir. J'ai échappé ma sobriété, j'ai rechuté. J'ai échappé mon appel, mon engagement. J'ai échappé mon ministère, ma destinée. J'ai mon témoignage. J'ai laissé tomber les gens que j'aimais le plus. J'ai laissé tomber ma famille, mes enfants, mes parents. J'ai laissé tomber mon Dieu. Je veux que tu relises ce texte de Luc, chapitre 1, verset 49 à 50. Voici ton assurance. À la table du roi, le Tout-Puissant va et peut faire pour toi de grandes choses. Te rebâtir, te restaurer. Méphibosheth, qui n'avait rien, s'est retrouvé à la table du roi. Et Dieu, on l'a lu. Et le roi lui dit, je vais restaurer tout ce qui avait été volé, tout ce qui aurait dû t'appartenir que tu avais perdu. Voici ton assurance. À la table du roi, il déploie la force de son bras pour toi. Voici ton assurance. À la table du roi, en cette saison de Noël, la table du roi, la table de Noël, il vient te secourir pour manifester sa bonté. À la table du roi, tu peux avoir confiance. Il ne se relâche jamais dans son amour, malgré tes échecs, malgré les erreurs, malgré ce qui a été déchiré, malgré l'eau de bord. En ce moment, tu es dans la vallée d'Achor, la vallée des larmes. Malgré le fait que tu te retrouves dans un lieu où tu penses que tout a été amené à rien dans ta vie, à un an, dans une sphère de ta vie. Il ne se relâche jamais dans la force de son bras. Sa miséricorde ne varie jamais. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Elle dure à toujours. Je suis Méphibosheth. Parce que comme lui, j'ai un passé lourd à porter. J'ai besoin d'aide et d'appui. J'ai besoin d'aide et d'amour divin. Il m'appelle à sa table pour me manifester sa bonté. Je suis Méphibosheth parce que j'ai perdu confiance. J'ai besoin d'assurance. On m'avait échappé. Et moi aussi, j'en ai échappé. Moi aussi, j'en ai échappé. Je suis Méphibosheth parce que moi aussi, j'ai encore ma place à la table et j'ai besoin de m'approcher. Dernier verset aujourd'hui, 2 Samuel 9, 10 et 13. On va continuer. Méphibosheth, le lendemain de Noël, ne manquez pas ça, c'est puissant. Et le roi dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien et tu mangeras toujours à ma table. Et Méphibosheth mangea toujours à la table du roi comme l'un des fils du roi. Wow! Lui dont la descendance avait été ennemie du roi. Lui, l'homme qui répandait la honte. Lui qui a été échappé et boité jusqu'à ce jour. À la table du roi, il est assis comme un fils. Et le roi lui dit, n'aie pas peur. Est-ce que vous reconnaissez le message de Noël? Parce que c'est ce que le ciel a dit à chaque, quel que soit leur âge, leur arrière-plan, à Zacharie, à Élisabeth, au berger, à Marie, à Joseph. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je t'invite à la table du roi. 365 fois dans la Bible, vous allez trouver l'expression « n'aie pas peur ». Un pour chaque journée, un pour chaque saison, une pour chaque année, chaque jour de chacune de nos années. Le roi te dit, viens à la table. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je veux te faire du bien. C'est ça, Noël. N'aie pas peur de t'engager envers Dieu parce que moi, je suis engagé envers toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ton avenir parce que j'ai fait une alliance avec toi, puis je vais être avec toi à chaque jour. N'aie pas peur, parce que moi, mon engagement d'amour n'est pas jetable, n'est pas conditionnel. N'aie pas peur des ennemis extérieurs. N'aie pas peur de l'année 2022. N'aie pas peur de la COVID. N'aie pas peur de l'instabilité que nous vivons depuis 2 ans. Parce que celui qui ne peut pas être secoué t'invite à sa table. N'aie pas peur des forces extérieures. N'aie pas peur de tes échecs et de tes ennemis intérieurs. N'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur, il est avec toi. N'aie pas peur, il est là. N'aie pas peur de qui que ce soit, de ton, quoi que ce soit de ton passé, de toi-même. N'aie pas peur, il est là et il t'appelle à la table pour être un fils du roi. L'apôtre Paul, je termine avec l'apôtre Paul, a plusieurs fois dans les Écritures donné son témoignage. Et à un des endroits, il donne son témoignage en disant, « J'ai connu un homme qui, et il parlait de lui-même. » Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous dire, je suis Méphibosheth. J'ai connu un homme qui, comme Méphibosheth, est né dans cette douleur, est né dans cette et dans ce contexte, un jeune âge de douleur, de boiter, d'être échappé. Ma mère s'est mariée très jeune, avec à l'époque où il y avait des fréquentations de quelques mois à peine, avec un homme beaucoup plus vieux que lui. Et croyez-le ou non, c'est un homme déjà qui était mon père, qui était déjà un alcoolique, un homme violent en termes modernes. Il avait des signes, des évidences de bipolarité, des problèmes de bipolarité graves qui se manifestaient par la violence et toutes sortes d'autres façons. Mais alcoolique au dernier degré. Et croyez-le ou non, quelques mois de fréquentation et la famille de mon père ont caché même à ma mère toute l'ampleur de ses problèmes pour essayer de penser que le mariage était peut-être pour l'aider, pour le sauver. Et là, et ma mère, des années plus tard, seulement a témoigné qu'à son mariage, son mari est parti sur une brosse pendant quelques jours. Elle l'a pas revu pendant quelques jours, c'est là qu'elle a vu avec qui elle était mariée. Et même si c'était impensable à l'époque, elle considérait est-ce que je pourrais le quitter, est-ce que je pourrais le. Elle a été échappée, elle a été laissée tomber. Mais là, elle est tombée enceinte de moi. Et lorsque je suis né dans des douleurs terribles pour elle, il y a eu des graves problèmes. Lorsque, à l'époque, les médecins, littéralement avec les forceps, lors de l'accouchement, m'ont blessé aux yeux de manière permanente. J'ai eu 4 opérations par la suite, un strabisme qui est présent encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais boiteux non seulement des yeux, mais boiteux dans mon âme. Je vivais à l'eau de bord. Je me souviens, comme un ado, j'avais écrit dans une classe un texte où j'avais dit de la fenêtre de ma chambre, je vois des pieds et je sais que ces pieds vont toujours marcher sur moi. Parce que au 87-91 13e avenue à Saint-Michel, dans le sous-sol où on habitait, de la fenêtre, je voyais le trottoir et je voyais les gens qui passaient avec des pieds. Et le petit appart était rempli des cris de violence de mon père et de tout ce qui pouvait prendre place à cette époque-là, à l'Odebar, dans la vallée des larmes, dans le lieu du rien du tout. Mais à l'âge de 17 ans, le roi m'a appelé à sa table. C'est ça, Noël. Le roi m'a appelé à sa table. Il m'a dit, viens, viens comme un fils. Et là, je suis Méphibosheth. Il a guéri année après année. La lourdeur de mon passé et la lourdeur du passé que je portais avec son amour divin, avec son alliance divine. Et oui, comme toi, à différents moments, j'ai été laissé tomber, déchiré, trahi. Mais Dieu lui vient. Et il ne m'a jamais échappé. Et aujourd'hui, je suis assis depuis toutes ces années à la table du roi. J'ai encore besoin de lui, mais j'entre dans cette saison de Noël avec cette absolue assurance. Je suis Méphibosheth, mais je suis assis à la table du roi comme un fils. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour chaque personne au son de ma voix, chaque personne qui regarde ce message en ce moment. Seigneur Dieu, que tu puisses venir avec la conviction de ton esprit, que quel que soit les ennemis qui sont venus contre eux, en face d'eux en cette fin d'année, tu dresses une table à laquelle tu nous invites, où tu restaures notre âme, où tu viens apaiser et nous conduire dans les sentiers de repos, qu'on puisse courir à la table ce matin. Seigneur, que chaque personne puisse avoir la sincérité, l'honnêteté, mais aussi simplement la lucidité d'ouvrir les bras et de dire « Je suis Méphibosheth ». Je prie de tout mon cœur pour celui ou celle qui vit à l'Odebar, qui vit dans la vallée d'accord, des larmes, dans le lieu du rien du tout, où tu penses que tu as tout bousillé, où tu penses qu'il n'y a pas d'avenir. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, le roi t'appelle. Il cherche, il te cherche, il t'appelle, pas pour te condamner, pas pour te rappeler tes erreurs et tes fautes, pas pour te juger. Il t'appelle parce qu'il fait une alliance d'amour envers toi. Il est venu, c'est ça Noël. Il vient pour nous inviter à sa table. Et Seigneur, si j'ai été échappé, et tous ceux qui ont été échappés par des circonstances, par la vie, par des tragédies, par des relations, par ceux en qui ils avaient confiance, que tu puisses aujourd'hui nous prendre dans tes bras et qu'on puisse marcher avec l'assurance que toi, tu ne nous échappes jamais. Nous terminons cette année, nous entrons dans la prochaine en disant, « Je suis Mephibosheth. » Et malgré le passé, malgré ce que j'ai vécu, malgré que j'ai été échappé à un moment ou à un autre, laissez tomber. Je suis maintenant en voie. Je suis assis à la table du roi comme un fils, comme une fille de Dieu. Et je suis en voie de cette guérison, de cette paix, de ces nouveaux chemins de paix que tu as préparés pour moi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors que l'équipe d'adoration va venir, il va adorer le roi sauveur. Joignez-vous à nous, prenez un moment et marchez jusqu'à Noël en disant « Je suis Mephibosheth, je suis un fils, une fille, assis, invité à la table du roi. » De l'autre côté du worship ce matin, restez là. De l'autre côté du worship, j'ai un message important à vous communiquer.